C'est une joie pour moi de nous rencontrer dans ce lieu encore, la dernière fois, peut-être. Certainement cette année. Et si le Seigneur prolonge sa patience à notre égard, peut-être il nous donnera de nous rencontrer à nouveau, un peu plus tard. Alors bonjour à tous quand même, ceux que je n'ai pas salués, soyez bénis. Et je vous salue dans le nom du Seigneur. Et qu'il nous encourage à avoir cette joie permanente dans nos cœurs, même avec des larmes. Notre joie, celle qui est au fond de nos cœurs, personne ne peut nous l'enlever. L'introduction de mon frère Jean-Luc m'a fait penser à une anecdote que nos frères, quand nos frères ont vécu. C'était des serviteurs de Dieu qu'on appelait dans nos milieux des colporteurs. Ils allaient de maison en maison porter la bonne nouvelle du salut. Et ils devaient faire le plein et ils passent par une station-service à l'époque. C'était encore quelqu'un qui emplissait le réservoir. Et ils tombaient des cordes, un peu le genre de drache nationale comme nous avons le 21 juillet chez nous. Et le gars lui dit, oh, quel sale temps et quel mauvais jour. Hein. Vous vous rendez compte? Il dit quoi? C'est le plus beau jour de ma vie. Comment est-ce que vous pouvez dire ça? C'est le plus beau jour de ma vie, je ne l'ai jamais vécu. Vous le retiendrez, mes amis, ça. Et chaque jour, vous vous direz, merci Seigneur, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour que tu m'accordes, dans ta grâce, avec toutes les bénédictions et toutes les richesses que je peux trouver et découvrir en toi. Vous savez, le Seigneur m'a mis à cœur de vous livrer quelques réflexions concernant le chapitre 17 de l'Évangile selon Jean. Plus particulièrement, je me permettrai de vous faire quelques réflexions à ce sujet, si précieux, de Jean 17. Mais d'abord, remarquez que quand le Seigneur était sur la terre, il était envoyé de son Père pour enseigner, et il nous envoie ses disciples en nous disant, en Matthieu 28-20, « Allez dans le monde, prêchez la parole de Dieu, et enseignez-leur toutes les choses que je vous ai dites, et voici, je suis avec vous jusqu'à la consommation du siècle. » Alors, cet évangile de Jean est tout particulier parce qu'il ne fait pas partie de ce que l'on appelle les trois évangiles synoptiques. Qu'est-ce que ça veut dire, synoptique? Qui se ressemblent et qui sont, au fait, pour Matthieu, Marc et Luc, des évangiles qui sont, en quelque sorte, la biographie de Jésus sur cette terre. Matthieu parle de Jésus, le roi d'Israël, Marc, le serviteur, et c'est la raison pour laquelle, dans cet évangile, il est souvent dit aussitôt. Le serviteur, aussitôt comme le Seigneur, était prêt à délivrer ce que son père lui dictait de faire. Luc est le fils de l'homme. C'est celui qui meurt. Le fils de Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. C'est impossible. Et c'est une pensée peut-être personnelle, me direz-vous, mais il me semble que c'est le fils de l'homme envoyé par Dieu qui va souffrir et mourir pour moi, pour vous. L'évangile de Jean, c'est suprême. Il est tellement riche d'enseignements que plusieurs personnes disent que pour les nouveaux convertis, ils devraient lire 7 fois cet évangile de Jean, du chapitre 1 au chapitre 21. Et 7 fois la première épître de Jean. Et je pense que c'est une bonne mesure, cette mesure-là. Et du reste, cet évangile de Jean commence par les mêmes expressions que dans le début de la Bible, le premier chapitre de la Genèse, vous vous souviendrez, qui nous dit « Au commencement, Dieu ». Au commencement, Dieu. Qu'est-ce que ça me parle, ça? Au commencement de ma journée, au commencement de mes préoccupations, au commencement de ma joie, au commencement de ma tristesse, au commencement de mes épreuves, que ce soit le Seigneur qui préside à ce moment-là. Je vous laisse la joie de découvrir ce que constitue ce merveilleux évangile de Jean, et si vous voulez, de lire avec profit ce merveilleux évangile. Nous savons que le Seigneur a rencontré pas mal d'ennemis dans sa vie. Mais ces ennemis, le Seigneur Dieu les mettra bientôt sous ses pieds. Il a même écrit, Dieu écrasera bientôt sous vos pieds tous vos ennemis. Raison pour laquelle, en venant de la part de Dieu accomplir sa volonté, la volonté de son Père, et à plusieurs reprises, nous remarquerons que le Seigneur lui-même, nous avons chanté cette obéissance de notre Seigneur qu'il a connue à cause des souffrances. Il n'a pas appris à obéir. Il a appris ce que c'était que l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça vaut la peine de préciser certains points de vue, mes chers amis, parce que notre Seigneur est si grand et qu'il veut bien nous accorder la grâce de voir quelque chose dans mon humilité, dans ce caractère de petitesse dans lequel je suis, par rapport au grand Dieu sauveur qui s'est révélé à nous, au grand Dieu créateur des mondes, qui nous accorde la grâce d'apercevoir quelque chose de cette grandeur-là, pour nous en aller différemment de ce lieu. Comme d'habitude d'ailleurs, et merci à mon cher frère qui présente la parole de Dieu, parce qu'il y a toujours quelque chose à découvrir dans ce que, de la part du Seigneur, il nous donne chaque dimanche. Et du reste, la récompense est là. Dieu l'a prévu dans l'ancienne alliance. Par la bouche de David ou par la plume de David dans un psaume, il nous est dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis comme marchepied de tes pieds. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. C'est David qui parle. Est-ce qu'il ne discernait pas déjà son Messie, le Messie d'Israël? En tout cas, ça devient plus clair pour nous qui connaissons les deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Permettez-moi de préciser ces caractéristiques de cette façon-là, parce que j'aime pas beaucoup qu'on dise Ancien Testament et Nouveau Testament. C'est beaucoup mieux dire Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Dans cet évangile notamment, on y découvre le Seigneur, Fils de Dieu, entièrement soumis à son Dieu, à son Père. On trouve ces paroles dans le chapitre 5, verset 19. Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. On discerne déjà dans cette parole-là l'entière soumission du Fils à son Père. Et nous verrons par la suite aussi quels sont les conseils d'amour qu'il nous donne. Parce que, au chapitre 17, est-ce qu'on a appelé la prière sacerdotale, c'est-à-dire une prière unique où nous y voyons comme dans un endroit secret, un endroit secret où le Fils s'adresse librement à son Père, dans une prière qu'on appelle sacerdotale, et donc a désigné ce chapitre 17 comme étant le Saint des Saints. Vous savez donc que dans chaque tabernacle, que dans chaque temple, il y avait divers lieux, le parvis et un lieu à part, qu'on appelait le Saint des Saints, où il y avait un voile qui séparait cet endroit-là de tous les autres, et où ce qu'on appelle le grand prêtre, le souverain sacrificateur, n'entrait qu'une fois par an. Nous verrons tout à l'heure, en citant ce verset d'Hébreux, que nous avons libre accès maintenant. Et pour quelle raison? Dans ce lieu très saint. De sorte que nous pouvons venir librement vers notre Père, comme un enfant se présente devant son Père, sans crainte, parce qu'il sait qu'il est aimé. Il devait d'ailleurs en être de même pour nous, les disciples, à l'égard de notre maître, c'est-à-dire soumis entièrement. Luc 6, verset 40, nous dit « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout homme accompli sera comme son maître. » Vous voyez ce que le Seigneur nous propose ? D'être comme lui. Ô Seigneur, si tu permettais cela. Pour rappel, le chiffre 7, vous savez que c'est le plus haut chiffre indivisible, et donc par conséquent, il nous donne quelque chose de très grand. Il y a de nombreuses fois dans cet évangile, 7 fois quelque chose. Vous vous souviendrez que le Seigneur a fait des miracles, et il y en a 7 qui sont repris dans l'évangile de Jean. C'est pas anodin. Il y a 7 fois où le Seigneur dit « Je suis ». Je suis le pain de vie, je suis la lumière, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. Je suis le cep, la dernière fois, au chapitre 15. Et bien d'autres fois où le Seigneur parle de ces 7 anecdotes. Et pour vous dire les références des 7 miracles qui ont été opérés qui sont par le Seigneur et qui sont repris dans l'évangile de Jean, le premier, c'est au chapitre 2, vous vous souviendrez, qu'au noces de Cana, le Seigneur transforme l'eau en vin. C'est le premier miracle que Jésus a fait, nous dit-on. Au chapitre 4, la guérison d'un fils d'un seigneur de Capernaum, dont la foi est remarquable. Il demande à Jésus, guéris mon fils, depuis l'enfance. Il est paralysé. Va, ton fils vit. Il a fait demi-tour, il s'en est allé, et les gens de sa maison sont revenus à sa rencontre et ont dit, tu sais, ne tourmente pas le maître, ton fils va mieux, il est guéri. Une foi remarquable. Est-ce que c'est souvent la mienne? Est-ce que c'est toujours la mienne? Crois ce que le Seigneur dit. Crois sur parole. Que ces mots retentissent dans ma vie. Croire le Seigneur sur parole. Au chapitre 9, c'est la guérison de cet aveugle né. Toute une histoire. Lisez, mes chers amis, toutes ces belles paroles de notre Seigneur. Et vous verrez quelle richesse il y a dans ce que notre Seigneur opère. Et le 5, c'est quelque part le summum, puisque c'est la guérison d'un mort. Lazare est mort. Lazare est mort. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, dit Marie et Marthe. Cette chère famille que le Seigneur aimait particulièrement. Pourquoi est-ce que tu as tardé? Pourquoi le Seigneur a-t-il tardé? Simplement pour que, si tu vois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Combien de fois le Seigneur doit me dire ça? Si tu crois. Si tu crois. Tu verras la gloire de Dieu. Comme mon Seigneur est merveilleux. Je ne sais pas si vous le savez, ça. Votre Seigneur, il est merveilleux pour vous, pour chacun de vous, mes chers amis. Et la sixième fois, c'est au chapitre 20, au verset 28. La propre résurrection du Seigneur Jésus. L'explication est la suivante, et ça nous est donné un chapitre plus tôt, chapitre 10, versets 17 et 18. L'explication est la suivante, à cause de ceci le Père m'aime, c'est que moi je laisse ma vie, afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même, je la laisse de moi-même. J'ai le pouvoir de la laisser et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et si vous êtes attentif à ce que la parole de Dieu nous dit, vous verrez que les trois, on appelle ça les personnes de la Trinité. Trinité, ça n'existe un mot qui n'existe pas dans la Bible. Mais on peut parler, pour nous faibles humains, en tout cas pour moi, dans l'infirmité de ma chair, je peux dire qu'il y a cette triunité. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint en qui je crois. Et qui ne font qu'une personne. Nous insistons bien là-dessus. Parce que nos frères juifs, nos frères aînés, comme je les appelle, nous disent « Vous me croyez en trois dieux ?» Eh bien non. Et une anecdote m'a été donnée il n'y a pas très longtemps. Vous savez, l'eau, comme exemple, peut se trouver dans les trois phases. L'eau liquide, l'eau vapeur et l'eau glacée. Mais en réalité, ce n'est qu'une eau. Ce n'est que, il y a trois personnes en nous. Une personne humaine, une âme et un esprit. Comment expliquer ça? Tout à l'heure, je vais vous donner une explication du mystère. Un mystère, il y en a beaucoup dans la Bible. Il y en a beaucoup dans nos vies, c'est parce qu'il est dans la roche. On ne sait pas tout expliquer. Et le septième miracle, c'est au chapitre 21, c'est la pêche miraculeuse, les fameux 153 gros poissons. Je ne vous apprends pas grand-chose, mes chers amis, vous connaissez toutes ces choses, mais relisez-le avec le contexte, essayez de pénétrer. C'est ce que nous disons la plupart du temps ici, hein, quand on prêche, on dit une méditation, mais non, ce n'est pas une méditation que nous faisons ici, c'est le produit de ce que le Seigneur m'a permis d'une réflexion que j'ai faite dans un texte de la Bible qui m'a été donné par lui pour pouvoir y réfléchir et partager de certaines de ses valeurs avec nos chers frères et sœurs. Du reste encore, enfin, l'évangile de Jean contient la septième parole de la croix. Vous savez que, aussi, sans doute, que le Seigneur a prononcé sept paroles sur la croix. Et la dernière, ce nous est donné dans l'évangile de Jean, la septième. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et en dit cela, il expira. C'est pour toi, c'est pour moi, que le Seigneur a expiré. C'est pour toi, c'est pour moi, qu'il est mort sur le bois de la croix. C'est pour moi, c'est pour toi, que le Seigneur a connu Gethsémané. Et l'arrestation, et puis Golgotha. Une réflexion a été faite une fois par un prédicateur disant qu'on ne vient pas à l'église pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé. C'est partiellement vrai. Sauf qu'il y a des réunions dites d'évangélisation, ou plus particulièrement, certaines personnes mettent en valeur le sacrifice de la croix et montrent combien j'en ai besoin, combien tu en as besoin, combien ceux auxquels ils s'adressent ont besoin de connaître et de rencontrer Jésus, au moins une fois dans la vie. Et alors, ils ont cette assurance vie éternelle. Le verset 3 de l'évangile de Jean, le chapitre 17, nous dit ce qu'est la vie éternelle. C'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle est d'abord une réalité présente et une espérance vivante pour le futur. Le Seigneur prie pour lui-même d'abord, puis pour les croyants, puis pour les futurs croyants, ceux qui croiront par le témoignage des deuxièmes, des croyants. Dans ce chapitre aussi, nous découvrons cette requête. La première, glorifie-moi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Nous y reviendrons. Deuxièmement, que Dieu lui rende la gloire éternelle, que les croyants soient gardés du monde et soient sanctifiés, que l'unité entre nous ressemble à celle qui existe entre Christ et son Père. Cela invitera le monde à croire, afin que Christ puisse partager sa gloire avec ceux qui ont cru. Cela signifie que le Seigneur nous fera faire, d'après les scientifiques, un retour de 13 milliards 820 millions d'années. Glorifie-moi, Père, de la gloire que tu m'avais donnée avant la fondation du monde. On imagine que le Seigneur nous fait faire un retour en arrière, parce que pour lui, ni le temps ni l'espace n'existent. Il est. D'ailleurs, il se définit comme ça à Moïse. Quand le Seigneur parle à Moïse, et que Moïse lui demande, qu'est-ce que je vais dire à tous ceux-là que tu me demandes d'appeler hors de l'Égypte, c'est toi, Seigneur, qui vas les délivrer. Mais que lui dirais-je, ils ne me croiront pas, moi. Tu leur diras, je suis, m'a envoyé vers vous pour vous dire, je viens vous libérer de l'esclavage de l'Égypte. Vous entendez aussi cela? Je viens te délivrer de l'esclavage du péché, de la servitude du péché. Je viens. Entendons-nous aussi cela, mes chers amis? Je suis, j'étais et je viens. Dans plusieurs de nos réunions, il nous a été dit que le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur vient bientôt. C'est une réalité que nous allons peut-être bientôt connaître. Le verset 4 nous dit, « Moi, je t'ai glorifié sur la terre, dit le Seigneur. » J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, c'est-à-dire la croix. C'est l'œuvre que le Seigneur avait reçue de la part de son Père et il avait été entièrement d'accord avec son Père. Puisqu'il a dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Verset 6, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole, c'est le merveilleux cadeau du Père au Fils. Ils étaient à toi, tous ces enfants-là, et tu me les as donnés. Il en était digne. En achevant l'œuvre que le Père lui avait donnée à faire, le cadeau de Dieu pour son Fils a été qu'il lui a donné tous les enfants qui appartenaient au Père. C'est magnifique, c'est merveilleux, cette parole du Seigneur. Je ne sais pas si vous l'appréciez aussi. Imagine que oui. Ils étaient séparés du monde et obéissant à ta parole. Pendant que j'étais avec eux, je les préservais du monde et ils ont gardé ta parole. Quelque part, l'autorité du Seigneur présente avec ses disciples faisait en sorte qu'ils étaient séparés du monde. C'est la sanctification. Et il gardait ta parole. Puis le Seigneur s'en est allé. Et ça fut de la tristesse dans les cœurs des disciples. Pourquoi? Seigneur, tu vas nous quitter? Mais nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes seuls? Tu vas nous abandonner? Je vous enverrai la promesse du Père, l'Esprit Saint, qui prendra de ce qui est à moi et qui vous le communiquera. Attendez la promesse de mon Père. Et c'est Pentecôte. La première fête de Pentecôte de Acte 2. Et puis le Seigneur dit, soyez saints comme Dieu est saint. Ce n'est pas seulement une parole dite alors qu'il était impossible d'atteindre ce niveau-là. Mais c'est le désir du cœur de notre Père de nous sanctifier, de nous séparer du mal, de nous séparer de ce monde dont la fonction première est être attiré par le mal et ne pas pouvoir s'en détacher. Des enfants qui ressemblent à leur Père céleste. Et pourquoi? Afin que Dieu soit vu dans ce monde, dans les siens, et plus encore, afin que le monde croit. Vous rendez compte le témoignage du fait que nous sommes un, chers amis, un en Christ. Et si nous sommes un en Christ déjà maintenant, c'est un témoignage, un des témoignages les plus puissants que ce monde pourrait voir que nous appartenons à Dieu. La sanctification, il a été souvent dit que sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est indispensable si on veut lui ressembler, si on veut voir Dieu. Il nous faut nous sanctifier. Et le Seigneur nous dit dans ce chapitre 17 de l'évangile de Jean, « Je me sanctifie moi-même pour eux. » Le Seigneur nous invite à nous sanctifier parce qu'il nous en donne la capacité. Si nous sommes en Christ, nous avons par la foi la capacité de dire « Non au mal !» Non, non à Satan. Il tourne autour de nous, cherchant qu'il pourra la dévorer. Non, non Satan, je ne te suivrai pas. Et si Ève avait pu dire ça aussi, il y aurait moins de douleur, il y aurait moins de malheur, il y aurait moins de larmes, il n'y aurait pas de deuil, mais c'est pour plus tard ça. Dans un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habite, il n'y aura plus tout ça. C'est d'ailleurs le but final de Dieu, c'est de nous faire un. Première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 24 et 28, nous lisons ceci. Ensuite, il parle de la résurrection. L'apôtre Paul, vous savez bien, pour la plupart de ceux qui lisent la Bible, ils savent que le chapitre 15 de 1 Corinthiens, c'est le chapitre de la résurrection. Si le Seigneur n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Notre foi est vaine. Nous croyons pour rien. Mais Christ est ressuscité. Il est vivant. La fête de Pâques nous le rappelle chaque année. Alors, nous avons affaire à un Dieu si grand que je lui demande sans cesse. Seigneur, appelle-moi ma petitesse. Nous avons récemment parlé de petits enfants. Ceux qui leur ressemblent, c'est le royaume de Dieu. Les petits enfants. Même pas les enfants, les petits. Que je sois tout petit, Seigneur, devant ta grandeur. Fais-moi voir aujourd'hui, chaque jour, quelque chose de ton infini, s'il te plaît. Vous me laissez terminer par deux anecdotes. Depuis quelque temps, je le disais aussi au départ, nous faisons souvent référence au retour du Seigneur et il est proche. Beaucoup d'événements nous indiquent que le Seigneur vient. Mais il y a deux conditions pour cela que la Bible nous annonce. D'une part, acte 1, versets 7 à 8, il faut que l'Évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons, je cite acte chapitre 1, versets 7 et 8, mais le Père a réservé à sa propre autorité le moment où il va rétablir ses relations avec son peuple. Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. Deuxième condition pour que le Seigneur revienne, 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant. Qu'est-ce que c'est que l'apostasie ? C'est l'abandon de la foi. On ne croit plus en Dieu. Dieu est mort. On a entendu ça. Dans le communisme, je crois. Dans les années 60, peut-être ne savez-vous pas, mes chers amis, je ne le savais pas non plus, je le sais juste récemment, Don Richardson, un serviteur de Dieu, dans les années 60, a eu à cœur d'aller évangéliser en Papouasie. La Papouasie, c'est un petit peuple qui se situe près de l'Australie. Et on peut considérer que c'est le bout de la terre. C'est l'extrémité de la terre. Quelques années plus tard, des papous sont venus avec leur costume à plumes à Jérusalem, avec deux lingots d'or, pour remercier Israël de leur avoir permis de connaître le Père et Jésus. Des Israélites voyant ces personnages un peu curieux arriver, ont pleuré de voir l'accomplissement de la volonté de Dieu qui avait dit il faut que Jésus soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Deuxièmement, dans la nouvelle convention européenne, on ne trouve plus de référence aux racines, aux valeurs judéo-chrétiennes. Devinez. Il faut même éradiquer la pensée de Dieu. Est-ce qu'il existe un Dieu qui se préoccupe de ce monde ? Pour nous chrétiens, croyons, Dieu règne. il va établir son règne. Et entre-temps, que cela soit vu du monde entier, pour nous, il règne. Qu'il veuille régner dans mon cœur. Seigneur, s'il te plaît, règne dans mon cœur. Voici quelques-uns des indices parmi une foule d'autres événements que vous connaissez vous aussi qui annoncent ces choses. Et nous lirions avec profit Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21 qui nous parlent du retour du Seigneur. Si vous le permettez, je terminerai par deux versets de la parole de Dieu. Le premier dans Hébreux. Nous parlions tout à l'heure du voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Et vous savez bien qu'à la mort du Seigneur Jésus, le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas dans l'île du Luc, où un autre évangile nous dit par le milieu, peu importe, le voile est déchiré. Nous avons une pleine liberté. Verset 19 de Hébreux 10, ayant donc frère, je lis dans la version Derby, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu'il nous a consacré à travers le voile de sa chair, à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, ayant un grand souverain sacrificateur, un grand prêtre, établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience. Et le dernier passage se situe dans le Cantique des Cantiques, un des versets de l'Ancien Testament. Et avant que nous chantions le dernier chant, ceci introduira un petit peu notre beau souvenir de chaque dimanche, la Sainte Cène. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 13. Il y a tous les fruits exquis, nouveaux et anciens, mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi.